Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les quatre policiers qui ont interpellé George Floyd à Minneapolis aux États-Unis sont dorénavant poursuivis par la justice. La mort de l'Afro-Américain a été requalifiée hier en meurtre, comme le réclamaient des centaines de milliers de manifestants américains. Nous irons à New York dans un instant.
Et puis vous entendrez ensuite les attentes de force ouvrière à l'aube d'une réunion sur l'emploi à l'Élysée. Le syndicat ne veut pas de la nouvelle doctrine « travailler moins pour gagner moins ».
La crise sanitaire qui devient donc économique et sociale, preuve en est ce rapport publié ce matin par les petits frères des pauvres. 15% des 60 ans et plus ne sont jamais sortis pendant le confinement ces derniers mois. Les conséquences sur le moral sont évidemment importantes aujourd'hui encore. Après ce journal, Guillaume, la question du jour.
Eh bien, dans une dizaine de minutes, Clara, pourquoi Pékin accroît-il la pression sur Hong Kong? Pour y répondre, Jean-Philippe Béja, sinologue, directeur de recherche émérite au CNRS et aux séries Sciences Po.
La mort de George Floyd aux États-Unis a donc été requalifiée en meurtre, homicide volontaire, 10 jours après le décès de cet Afro-Américain asphyxié à terre par un policier de Minneapolis. Depuis, les manifestations et les émeutes se sont multipliées dans tout le pays et à travers le monde. Face à cette colère populaire, les charges qui pèsent sur le policier Derek Chauvin ont été alourdies, Loïc Loury.
Pour les centaines de milliers de manifestants qui défilent depuis 10 jours, c'est incontestablement une première victoire. Le procureur général du Minnesota, désormais en charge de ce dossier, a pris hier la parole. C'est bien un meurtre, dit-il, dont George Floyd a été la victime. Nous sommes ici aujourd'hui parce que George Floyd, lui, est absent. Il devrait être vivant, mais il ne l'est pas. Il y a 9 jours, le monde a regardé Floyd prononcer ses derniers mots. Je ne peux pas respirer, alors qu'il priait pour sa vie. Le monde a entendu Floyd appeler sa maman et supplier « ne me tuez pas ». Après enquête, Keith Ellison a donc décidé de poursuivre les 3 policiers jusque-là restés libres pour complicité. Quant à Derek Chauvin, ce n'est plus pour homicide involontaire, mais pour un meurtre non prémédité qu'il devra faire face à la justice, 40 ans de prison dans la balance. George Floyd compte, il était aimé, sa famille était importante, sa vie avait de la valeur et nous demanderons justice pour lui, pour vous, et nous l'obtiendrons. L'avocat des Floyd s'est dit profondément satisfait. Keith Ellison lui prévient, il faudra du temps et le travail de toute la société pour guérir la peine que tant de gens ont ressentie. Les manifestations hier soir étaient d'ailleurs encore très nombreuses.
Manifestation en effet à Washington devant la Maison Blanche hier soir. Une veillée a eu lieu aussi à Minneapolis. Et puis des rassemblements encore en Europe, de Londres à Helsinki en passant par Stockholm, Toulouse ou Montpellier. Car en France aussi, la question des violences policières est sensible. En plus du soutien aux Américains, des milliers de manifestants ont encore défilé contre le racisme dans la police ces derniers jours. Hier, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a promis que chaque faute, chaque excès, chaque mot, y compris des expressions racistes, ferait l'objet dans le pays d'une enquête, d'une décision et d'une sanction. Il s'exprimait devant le Sénat, provoquant la colère de certains policiers qui réfutent l'idée de racisme au sein de la profession. Une réunion est prévue ce jeudi à l'Élysée pour plancher sur des solutions face à la crise économique. Solutions qui devraient concerner l'emploi aujourd'hui. Syndicats et patronats seront donc réunis autour d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron, autour surtout de ces questions. Comment éviter la deuxième lame, les défaillances en cascade, l'explosion du nombre de chômeurs dans le pays? Et comment travailler dans des conditions qui restent dignes pour un salaire décent? C'est sur ce point précis que voudra insister Yves Verrier, il est secrétaire général de Force ouvrière.
On a un discours qui est en ce moment très dramatisant, anxiogène, où on invoque une perspective de récession de 11% de points de PIB, où le Premier ministre n'a eu de cesse d'évoquer dans le contexte du déconfinement la ligne de crête entre le risque du rebond sanitaire et de l'autre côté celui d'un écroulement économique. Je pense qu'on a besoin d'un autre discours, d'un discours beaucoup plus optimiste. On est aujourd'hui beaucoup interrogé. À un moment, on nous disait, il va falloir se remonter les manches, travailler plus, déroger aux 48 heures. Et aujourd'hui, on nous dit, il va peut-être falloir travailler moins et surtout gagner moins. Et je pense que ce serait la pire des choses à faire que de faire en sorte qu'il y ait une forme d'incitation un peu générale à la modération des salaires au prétexte que la situation économique est compliquée, qu'il faut éviter ce discours qui oppose salaire à emploi. Et c'est un peu ce à quoi on est confronté dans un certain nombre d'entreprises en ce moment. En nous disant, il faut faire des sacrifices sur les salaires, mais je pense que ce serait contre-productif, qu'on créerait un effet récessif qui irait à l'encontre de ce dont on a besoin en matière de reprise de l'activité. On parle de relocalisation d'entreprises, d'industries. Il faut qu'on soutienne par la demande intérieure. Donc le moment n'est pas celui de la modération, de la contrainte sur les salaires.
C'était Yves Verrier de Force Ouvrière, interrogé pour France Culture par Catherine Pétillon. Autre revendication des syndicats aujourd'hui, l'abandon de la réforme de l'assurance chômage qui durcit l'accès aux droits, alors que 500 à 600 000 emplois pourraient être détruits d'ici la fin de l'année. Cette étude à présent sur une autre conséquence de la crise sanitaire et sociale, l'isolement des personnes âgées. Les petits frères des pauvres quantifient, si l'on peut dire, cet isolement dans un rapport qui est publié ce matin. On y lit que 720 000 personnes âgées n'ont eu aucun contact avec leur famille durant le confinement. 650 000 n'ont même pas eu quelqu'un à qui parler pendant ce confinement. Plus généralement, sachez que 2,5 millions de personnes de 60 ans et plus ne sont pas du tout sorties ces derniers mois. Cela a évidemment des conséquences avant tout psychologiques, Aurélie Kiefer.
Le confinement, c'est très triste. Personne ne vient me voir. Je tourne en rond dans ma chambre et les journées sont interminables, confie Claudette, 87 ans. Comme elle, ce sont surtout des femmes âgées vivant seules avec des petits revenus qui ont vu leur situation s'aggraver, en particulier en zone très rurale ou dans les quartiers politiques de la ville. Pour ceux qui n'ont plus ni famille, ni amis, ni même le soutien d'associations, le seul lien social reste le petit rituel d'aller acheter son pain, de faire son tiercé ou de boire un verre au bar. Autant d'habitudes abandonnées pendant le confinement. Armelle de Guibert, déléguée générale des Petits Frères des Pauvres.
Le petit contact avec l'extérieur, qui était celui du commerçant, mais ils n'ont plus, parce qu'ils ont eu peur pour leur santé. Et en plus, une surconsommation dans ces cas-là de la télé, qui a été quand même plutôt anxiogène, le physique et le moral s'alimentant, le fait de ne pas sortir entraîne tout simplement une perte de masse musculaire qui peut aller très vite. Alors on sait très bien que conserver la marche pour les personnes âgées, c'est primordial. C'est ça qui fait souvent qu'elles peuvent rester à domicile. Pour 86% des personnes âgées, leur souhait, c'est de mourir chez elles. Et du coup, ça, sur le moral, c'est terrible.
Je ne sers plus à rien. Je vais me laisser mourir. Ces paroles, les bénévoles de la plateforme Solitude Écoute les ont bien plus entendues que d'habitude. Pour les petits frères des pauvres, il faut en tirer les leçons. Agir au niveau national pour valoriser la solidarité et les liens sociaux, pour rappeler que les personnes âgées restent des citoyens à part entière, mais surtout agir localement pour renforcer la lutte contre l'isolement. Ce sont souvent des médecins, des infirmières ou des pharmaciens qui alertent l'association pour lui signaler des personnes âgées que tout le monde semble avoir oubliées.
Distance intime ou personnelle, les relations aux proches bouleversées, c'est aussi le thème du hashtag de cette semaine. Témoignez sur les réseaux sociaux grâce au mot-clé « Nos relations après Covid ». Racontez-nous, le reportage sera diffusé demain matin.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal sur France Culture. La Cour d'appel de Paris est d'accord pour remettre à la justice internationale Félicien Kabuga.
Oui, il est accusé d'être le financier du génocide du Rwanda, d'avoir aussi créé des milices bras armés du massacre de 94 qui fit, selon l'ONU, 800 000 morts. Félicien Kabuga a été arrêté le 16 mai dernier à Asnières, en région parisienne, après plus de 25 ans de cavale. Très étrange, nous dit ce matin Alain Gauthier, il est président du collectif des partis civils pour le Rwanda.
C'est assez incompréhensible. Ce qui est le plus incompréhensible, c'est qu'on les retrouvait en France et qu'on dit qu'ils seraient en France depuis déjà plusieurs années. Donc c'est ça qu'il faudra chercher à éclaircir. De quelle complicité a-t-il bénéficié pour pouvoir venir se réfugier en France? Je crois que l'explication familiale ne nous satisfait pas. C'est la raison pour laquelle, s'il accepte de parler, on est intéressé par toute la cavale qu'il a pu faire pendant ces nombreuses années. Nous, nous sommes persuadés qu'en France, beaucoup de personnes qui ont participé au génocide des Tutsis pourraient rendre des comptes à la justice, mais nous n'avons pas les moyens non plus d'enquêter sur tous les cas. L'essentiel, c'est que M. Kabuga soit jugé. C'est vrai qu'il y a déjà tout un dossier qui est prêt, au TPIR, puisque le TPIR avait déjà entendu pas mal de témoins concernant les quelques cas qu'il n'avait pas encore pu juger. Je ne sais pas quel délai ça pourrait prendre, mais probablement plus d'une année. C'est la raison pour laquelle je disais que je craignais que M. Kabouga ne soit jamais jugé.
Des propos recueillis par Florence Thur, mais je précise que les avocats de Félicien Kabouga ont aussitôt saisi la Cour de cassation qui a maintenant 2 mois pour se prononcer. Un nouveau suspect dans l'affaire de la disparition en 2007 au Portugal de Madeleine McCann, surnommée Maddy, 4 ans à l'époque. Le suspect est de nationalité allemande. Il est actuellement emprisonné outre-Rhin pour des faits de délits sexuels sur mineurs. Comme le prouve son téléphone, il se trouvait dans le sud de Portugal au moment de la disparition de l'enfant. McCann s'offre Wes Anderson et François Ozon dans sa sélection 2020 qui n'aura pas de festival ni de palme d'or. La sélection officielle a tout de même été dévoilée hier par le festival, une sorte de sélection de label pour les 56 films choisis, dont 21 films français. Retenons également les réalisateurs Laurent Lafitte, Viggo Mortensen ou Mai Wen et quelques surprises, notamment le long métrage de Ludovic et Zoran Boukerma. Il s'appelle Teddy, Yvan Planteil.
Deuxième film pour les frères Boukerma est déjà sélectionné à Cannes. Un an jour pour jour après le début du tournage, Teddy, c'est avant tout un film de loup-garou.
Ça raconte l'histoire de Teddy, donc un jeune homme de 19 ans et qui est en couple avec une jeune fille qui s'appelle Rebecca. Lui, il va se faire griffer en fait par un loup à l'orée du bois. Et les semaines qui vont suivre, Teddy va être pris de pulsions animales et il va petit à petit se changer en loup-garou.
Zoran Boukerma est l'un des deux réalisateurs et il savoure cette nomination.
On n'en revenait pas, ça fait plusieurs semaines qu'on ne sait pas trop si on va être sélectionné ou pas. Et là, c'est vraiment formidable. Surtout que ça nous permet de... ça valide un peu notre travail, parce qu'on fait un travail qui est quand même assez singulier dans sa forme.
Comme pour leur premier long-métrage, sorti en 2016 et qui s'appelle Willy Premier, certains acteurs ne sont pas des professionnels. Concernant le scénario, le film s'attarde sur un personnage un peu perdu, sans grande réussite, issu d'un monde rural. Des inspirations qu'ils puisent chez Ken Loach ou encore Benoît Delépine, mais surtout de leur propre histoire, chez eux, à Marmande. Alors pour voir Teddy, leur film, en salle, il faudrait être patient car il ne devrait sortir qu'au début de l'année 2021.
C'était Yvan Planteil pour France Culture. 5 départements sont en vigilance orange pour des risques d'orage et de fortes pluies aujourd'hui. Cela va des Bouches-du-Rhône jusqu'aux Alpes-Maritimes. La pluie va balayer encore tout le pays. Les orages vont gagner le nord-est à la mi-journée. Et puis ce matin, comptez 16 degrés à Lille, à Paris et à Nantes, 18 à Strasbourg et Lyon, 20 degrés à Marseille.
Merci Clara Lecoq-Réal. Pourquoi Pékin accentue-t-il sa pression sur Hong Kong ? Réponse dans quelques instants, c'est la question du jour, 7h12 sur France Culture.